Et après la mer, à la fin du texte sur la mer, on nous dit qu'ils ont fait confiance à Hachem, ils ont fait confiance aussi à Moshe Rabbeinu. Mais 3 jours plus tard, ils arrivent à un endroit, il y a de l'eau, mais l'eau n'est pas buvable, elle est trop amère. L'endroit s'appelle Mara, c'est-à-dire amer. Et donc, évidemment, ils se plaignent, et toujours avec on aurait mieux fait de rester en Égypte, etc. Et Hachem indique à Moshe Rabbeinu comment rendre l'eau douce. Et ils boivent. Mais à cet endroit, à Mara, en plus de l'eau, ils ont reçu là-bas des mitzvot. Ils ont reçu, par exemple, Kibboud Av Va'em, ils ont reçu Shabbat, ils ont reçu des dinim, ils ont reçu Parah Adouma. Donc, toute une série de mitzvot. Donc, ils ont expérimenté de recevoir des mitzvot. En fait, en Égypte, déjà, ils avaient reçu la mitzvah de Harodesh Hazelachem, etc. Mais disons, vraiment des mitzvot, sans que ce soit dans le cadre de la sortie d'Égypte. Voilà, maintenant, ils l'ont expérimenté. Et par conséquent, quand un peu plus tard, ils vont arriver au Sinaï, on ne peut pas dire que le chidouche du Sinaï, c'est qu'ils vont recevoir des mitzvot, puisque les mitzvot, ils ont déjà reçu. Ce n'est pas la nouveauté, là. Donc, qu'est-ce que c'est la nouveauté du Sinaï? On ne peut pas non plus dire qu'au Sinaï, ils se sont engagés à accomplir des mitzvot. Sont engagés de faire ce qu'Hachem leur a dit, parce que quelques jours avant le Sinaï, ils ont dit Naaseh v'nishma. Donc ils sont déjà engagés. Et donc la question qui vient, c'est alors qu'est-ce qui s'est passé de nouveau au Sinaï? Puisque des mitzvot, ils ont déjà reçu, et l'acceptation, ils ont déjà dit Naaseh v'nishma. Mais la Torah elle-même, elle va dire que le Sinaï, avec le Matan Torah du Sinaï, c'est quelque chose de très très important, d'absolument unique. Donc il doit s'y être passé quelque chose qui jusque-là ne s'était pas passé pour les Bnei Israël. Et on ne peut pas dire que le fait qu'on a 613 mitzvot au lieu de d'une dizaine, ce soit ça le chidouche. Alors le passouk dit effectivement à Mara, là, à Mara, Hachem lui a donné des lois et des jugements. La référence, c'est, je crois, 15-25 dans Shemot. Sefer Shemot, 15-25. Donc la Gemara, dans Sanhedrin, elle nous explique que effectivement la liste des choses qu'ils ont reçues à Mara. Donc il y a déjà des mitzvot, il y a déjà une espèce de pédagogie divine, il y a une préparation spirituelle un peu, on est un peu au début. Alors il y a des chachamim qui appellent ça une hagdama, la Torah. C'est-à-dire une introduction, une préparation à la Torah. Mais ça n'est pas encore Matan Torah. Parce que donner des mitzvot, ça n'est pas la même chose que donner la Torah. Et maintenant, je vous ai dit, il y avait une autre chose, c'est un assainissement. Toute cette acceptation. Ils ont dit, tout ce qu'Hachem dira, nous le ferons et nous écouterons. Ça, c'est dans 24-7, toujours dans Sefer Shemot. Là, c'est un engagement total. Alors, qu'est-ce qui manque? Donc, les Chachamim vont expliquer qu'ils ont accepté la Torah avant de l'avoir reçue. En d'autres termes, ils ont dit, on va accepter le contrat. On accepte le contrat, mais quand est-ce que le contrat va prendre effet, si vous voulez? Ça, c'est plus tard, ça sera au Sinaï. D'une certaine manière, la Gemara dans Shabbat, la fameuse Gemara dans Techet, dans Amud Aleph, et c'est la même chose dans les Midrashim, ils disent que jusqu'au Sinaï, il y avait une règle que le ciel reste au ciel et la terre reste la terre. C'est-à-dire, en fait, avant le Sinaï, le spirituel et le matériel étaient complètement séparés. Les mitzvot pouvaient élever l'homme, mais elles ne vont pas transformer le monde. Elles ne vont pas transformer la matière, en quelque sorte. Quand on dit que les avot, ils ont fait toutes les mitzvot, ils ont fait Shabbat, ils ont fait les tefillin, et la Torah, etc. Mais c'est les actes spirituels. Avraham Avinu, il met des tefillin. C'est un acte magnifique. Mais ces tefillin, les tefillin d'Avraham Avinu, ils ne deviennent pas un chefsa shel mitzvah. Il ne devient pas un objet de mitzvah. Il fait un acte, mais ça devient pas, ça n'a pas de kdusha, si vous voulez. Au Sinaï, les tefillin vont acquérir une kedusha véritable. La mezouza, elle ne va pas sanctifier la maison. Le support sur lequel on va écrire les parchiotes, les tefillin ou la mezouza, etc., l'encre, le parchemin, ont une certaine kedusha. Le vrai chidouche, donc, c'est que le Sinaï, d'une certaine manière, il a changé, on peut dire, la structure de la réalité. C'est-à-dire que la révélation qu'il y a eu au Sinaï, ce n'est pas les commandements qu'on a reçus, les mitzvot qu'on a reçus. C'est la présence d'Hachem dans le monde. C'est une révélation directe d'Hachem qui parle aux hommes. Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, Hachem vous a parlé par face à face, panim et panim. Panim el panim. Et comme il le dit, jamais tout un peuple n'a entendu la parole divine directement. Alors, comme la Torah le décrit, au moment où Hachem a parlé aux hommes, il y avait des tonnerres, des éclairs, des sonneries de shofar, la montagne qui tremblait, le peuple qui voyait des voix. Pourquoi est-ce qu'il y avait tout ça? Parce que au Sinaï, il y a une nouvelle relation entre Akadosh Baruch Hu et le monde. C'est-à-dire qu'avant le Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a une relation avec les fameux trois individus, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais après, Akadosh Baruch Hu, il a une relation avec tout un peuple. Toute une nation, même avec la matière en quelque sorte, mais je peux parler comme ça. Et donc maintenant, pourquoi il fallait qu'il y ait Naaseh v'Nishma avant la Kabbalah, avant le Sinaï? Ça veut dire il fallait qu'ils disent, que ce soit sincère, qu'ils disent, nous sommes prêts à recevoir le fait qu'Hachem va nous parler. Et à ce moment-là, Hachem va parler. Donc c'est comme si, à Mara, on a appris des règles, on a appris des lois. Naaseh v'nishma, on pourrait dire, on a signé le contrat, on va faire ce que tu nous dis. Au Sinaï, ça entre en vigueur, quoi. Le contrat avec toutes les conséquences que ça a sur le monde entier, nous on pense même sur tous les mondes, c'est au Sinaï que ça a lieu. C'est-à-dire qu'au Sinaï, le monde a accepté de pouvoir devenir il peut y avoir de la kdoucha dans le monde. C'est pas du tout qu'on a ajouté les mitzvot. Bien sûr qu'on a ajouté aux mitzvot de Mara jusqu'à arriver à 613. Alors, il y a aussi le fait que ce qui s'est passé au Sinaï, c'est public, avec des tremblements du monde et des hommes. Des hommes ils sont morts de trouille. C'est pas une mise en scène. C'est essentiel à la nature de la Torah, en fait. La Torah, elle doit être publique. Comme Hachem, comme Moshe Rabbeinu va dire au Bnei Israël, c'est pas avec nos pères seulement qu'Hachem a fait cette alliance, mais avec nous, nous qui sommes tous vivants aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tous les jours. De là, Chachamim disent qu'au Sinaï, il y avait toutes les âmes passées, présentes, futures, qui étaient là. Qu'est-ce qui se passe de nouveau aussi? Il n'y a que, avant le Sinaï, Abraham a reçu une révélation sous forme de Nevoua. Il a reçu par exemple dans Brit Ben Abtarim, Hachem lui a parlé dans la Nevoua. Il a transmis à ses enfants. Et voilà, il faut croire le témoin. Il faut le croire. Comme ça que se fabrique, d'une certaine manière, l'avdil aussi des religions. Il y a un prophète qui dit qu'il a vu, il a vu le bon Dieu, quoi, quelque part. Et les gens le croient. La Torah, elle veut quelque chose de différent. La Torah, elle dit qu'il y a une expérience collective. C'est pas un témoignage, ça commence par une expérience collective. C'est pour ça que dans la Torah, on sait faire Dvarim, chapitre 4, le passage demande, est-ce que depuis la création du monde, est-ce qu'il y a eu un peuple entier qui a entendu la voix d'Hachem? Pas quelqu'un a dit que Hachem lui avait parlé. Un peuple a entendu. Tout un peuple a entendu. Alors, la Torah, elle dit qu'à ce moment-là, tout le peuple a vu Oui, mais ta colotte, il a vu les bois et tout le monde tremblait. Et pourquoi fallait-il qu'il y ait la peur? Pourquoi est-ce que ce n'était pas une expérience mystique en douceur? Alors, par exemple, le Maharal explique. La Torah, elle ne peut pas être reçue si ce n'est dans une expérience de dépassement total de l'ego. La peur, ce n'est pas une punition ici. C'est que, à ce moment-là, le moi de chacun, le moi autonome de chacun a disparu. Le peuple découvre que Hachem, ce n'est pas une idée, même platonicienne. Ce n'est pas une croyance seulement. Ce n'est pas une spiritualité intérieure. C'est la réalité absolue. Là-devant, effectivement, le moi de chacun, l'ego de chacun tremble. Les certitudes qu'avaient les êtres humains, ben, elles ne tiennent plus. Et la Gemara, elle dit que à chaque parole, comme on le sait bien, quand ils ont entendu les paroles directement dites d'Hachem, ben, ils sont morts. Le schéma est sorti. Ça voulait dire qu'il fallait mourir à l'ancienne façon d'exister et exister d'une nouvelle manière. Ça s'est passé au Sinaï. Si vous vous souvenez, on a parlé récemment de ce. Des différentes époques qui se terminent toujours par la mort de l'ancienne époque. C'est pas qu'on passe en douceur, c'est pas une évolution comme le corps humain vit des évolutions successives du corps. C'est pas comme ça. Il y a une mort. Le Maboul, c'est la mort du monde. Émerge quelque chose qui vient de l'ancien monde, éventuellement. C'est un nouveau monde. Ce monde-là, il meurt et il y en a un autre qui vit. Une vraie mort, comme la mort cellulaire, si vous voulez. Et ici, c'est ce qui se passe. Ils entendent une parole, la première parole, et ils meurent. Ils disparaissent pas. Ils meurent, ils ressuscitent, mais ils sont complètement différents parce que la parole qu'ils ont entendue est devenue une partie d'eux-mêmes. Ils ont complètement intégré la parole d'Hachem. Première parole, deuxième parole. Et normalement, ils auraient dû entendre toutes les paroles de cette manière-là. Mais ils ont eu peur. Ils ont eu peur que, à la troisième parole, ils vont mourir, mais peut-être pas ressusciter. Ils n'étaient pas au niveau où ils pouvaient envisager cela. S'il l'avait fait, l'histoire était terminée. Parce qu'ils auraient intégré toute la Torah complètement, donc l'histoire était finie. La Gemara rapporte que, en tout cas par rapport à la, on dit par rapport à la Torah orale, Hachem a suspendu la montagne au-dessus d'eux comme une cuve, si vous voulez. Et pourquoi il fallait cette contrainte, puisqu'ils avaient déjà dit, non, c'est Benishma. Pourquoi il faut les obliger? L'asevnishma, c'était une acceptation volontaire. Ils ont dit de même. On ne les a pas obligés, ils ont dit l'asevnishma. Avec la montagne, bah, voilà, tu n'as pas le choix. Ça veut dire, ils ont accepté librement. Et maintenant, on leur montre qu'en réalité, la Torah, elle n'est pas optionnelle. On ne peut pas vouloir que le monde continue sans accepter la Torah. C'est comme si Hachem leur avait dit, vous pouvez choisir librement, mais si... Enfin, mais l'univers va dépendre de votre choix. Vous connaissez, c'est la fameuse dracha sur Yom HaShishi. Pourquoi n'est-ce pas marqué Yom Shishi comme on s'est marqué Yom Revi, Yom Chamishi? Yom HaShishi, parce que c'est un certain, il y a ce sixième jour, il y a un autre sixième jour, qui est justement ce fameux 6 Sivan, qui est une date impossible, donc du don de la Torah, et au sujet de laquelle Chazal disent, Hachem a dit au monde, si ce fameux 6 Sivan, les Bnei Israël acceptent la Torah, alors le monde que j'ai créé est définitivement créé. Mais s'il ne l'accepte pas, je réduis le monde au chaos. C'est-à-dire, j'annule complètement. Donc le monde a été créé véritablement à la condition qu'Israël accepte la Torah. Maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce que il a fallu que cette acceptation et cette révélation, si on veut, soit ressenti par les sens de l'être humain. Il y avait du feu, c'était un son et lumière, fumée, tremblement, chauffard, la montagne suspendue, etc. Ça veut dire que le message, il faut dire que la Kedusha qui vient ici, elle va entrer dans le monde. Elle entre concrètement dans le monde. Et donc, il faut que la révélation, elle entre par les cinq sens. Les oreilles, les yeux, le corps, les sens, par les cinq sens. On ne leur demande pas de croire à la Torah. Ils doivent avoir vécu littéralement la Torah physiquement. Quand Hachem a parlé avec Moshe Rabbeinu, enfin, au moment où il l'envoie pour sortir les Bnei Israël de Mitzraïm, il lui dit, tu sais, la preuve que ça c'est vrai, c'est que Ta'avdu et Ta'elokim à la harazé, que vous allez servir Elohim sur cette montagne. Moshe Rabbeinu était au Sinaï à ce moment-là. C'est le moment de ce qu'on appelle le buisson ardent. C'est le Sinaï aussi déjà. Et Hachem lui dit que les Bnei Israël vont servir Hachem sur cette montagne. Mais on n'a jamais servi Hachem. Il n'y a pas eu d'avoda sur le Sinaï. Qu'est-ce que Hachem lui a dit là? Alors on explique que la Kabbalah de la Torah, elle vaut avoda. Puisqu'on a dit qu'on était d'accord, c'est comme si on avait pratiqué les choses. C'est comme si on avait vécu la pratique de la chose. Pas seulement on a vécu la révélation, etc., mais on a vécu la pratique de cette Torah.
Donc la Torah, ce n'est pas une religion de pure méditation. Alors, comme vous savez, malheureusement, enfin, je veux dire malheureusement, mais dans la Torah, ce n'est pas marqué comme ça. Dans la Torah, c'est marqué que c'est bien qu'ils aient dit ce qu'ils ont dit à Moshe. Ils ont dit à Moshe, après la deuxième, il allait avoir la troisième parole, ils lui ont dit, parle-nous toi, sinon on va mourir. C'est-à-dire qu'ils ne supportaient pas, ils ne supportaient plus, en tout cas, le rapport direct, le fameux face-à-face avec Hachem. D'un autre côté, on dit que le Sinaï, c'est une situation, c'est la Choupa. Israël est comme une kala sous la Choupa. Donc le Sinaï, c'est à la fois une expérience dans laquelle on meurt et on ressuscite, et aussi un mariage. Ça veut dire que l'alliance avec Hachem, elle nécessite les deux choses. La crainte, la peur, reconnaître la hauteur, la grandeur divine, et aussi vouloir cette proximité que représente le mariage. Et la Torah, c'est les deux choses à la fois. Donc ça veut dire, le Sinaï, c'est pas seulement le don d'une loi, comme on dit, mais c'est une création à nouveau du monde et aussi d'Israël. Avec toute expérience extraordinaire qu'ils ont vécue, Hachem leur parle directement. 40 jours après, ils font le veau d'or. Comment cette génération qui a vécu cette révélation, qui a vécu le panim el panim, ils sont capables de faire le veau d'or? Mais d'une certaine manière, c'est tellement important que ça a l'air d'être une des composantes fondamentales du Sinaï. Ce n'est pas un accident qui n'a rien à voir. Ça a l'air d'être un peu fondamental. Les Bnei Israël au Sinaï, ils sont arrivés à une madriga où la trace du Nahash, la Zohar du Nahash, le Chava, a disparu. D'autres termes, il y a eu un tikkun, une réparation de la faute de Adam et Chava. Ils sont devenus immortels. On a retrouvé l'état d'avant la faute. En d'autres termes, le clan d'Israël s'est trouvé au Sinaï dans un autre monde quasiment. Le monde d'avant la faute. D'autres termes, ils étaient un peu comme des malachim, comme des anges. Et il y a comme un problème, si vous voulez, c'est que on ne peut pas rester ange avec un corps humain. Ben, artificiellement, d'une certaine manière, parce que Hachem nous y a aidés, mais on est arrivé trop haut. On n'a pas intégré toutes ces madrigotes qu'on a franchies tellement rapidement. Je vous rappelle que en Égypte, la raison pour laquelle nous sommes sortis, c'est que on était à ce fameux 49e degré d'impureté. Alors, il y a une marloquette pour savoir est-ce qu'il existe un 50e degré d'impureté ou pas. Mais si, bon, alors, s'il existe, alors le risque était que les Bnei Israël tombent dans ce 50e degré d'impureté. Et à ce moment-là, il n'y a plus personne qui sort d'Égypte. C'est la mort. Déjà comme ça, il n'y a qu'un cinquième de gens qui sortent d'Égypte. S'il n'y a pas de 50e, ça veut dire le 49e est déjà tellement plein que bon, s'ils avaient rempli complètement, ils ne sortaient pas non plus. Le principe de Zé le Oumad Zé, que tout ce qui existe dans un sens existe aussi dans l'autre sens, c'est vrai jusqu'à 49. Il y a plus 49 et moins 49. 50, il y a 50 dans le positif, Ramishim Shari Bina, et d'après Gaon et d'autres, il n'y a pas de 50e degré d'impureté. 50, c'est autre chose. Quand Moshe, alors, une fois que Akadosh Baruch Hu a parlé, il a transmis ces fameuses 10 paroles, directement et indirectement. Alors Moshe va monter Sinaï pendant 40 jours pour apprendre la Torah. Il va devoir l'enseigner, il faut d'abord qu'il l'apprenne. Alors il est vrai que dans les 10 paroles, en fait, elles contiennent d'une certaine manière les 613, toutes les 613 mitzvot, et même une grande partie de la Torah. C'est vrai. Mais il va falloir expliciter les choses, et Moshe a besoin de 40 jours pour apprendre. Mais en réalité, il n'arrive pas à apprendre, dit le Midrash. Même si le Rebbe, c'est le Ribbono shel Olam, et l'élève, c'est Moshe, ça marche pas. Alors Hachem, le 40e jour, Hachem lui donne la Torah. Il lui dit, OK, je te la donne. Tu n'arrives pas à l'apprendre, je te la donne. Tout va se passer dans la suite, comme si Moshe, effectivement, l'avait apprise par lui-même, mais là, Hachem la lui a donnée. Et ce 40e jour, Hachem va donner à Moshe Rabbeinu les louchot. Alors, à quoi ça sert les louchot? Puisque en fait, le peuple, tout le monde a entendu les 10 paroles. Qu'est-ce qu'il y a sur les louchot? Les 10 paroles. C'est comme si, OK, on va vous donner une trace écrite ou un contrat écrit par rapport à ce qui a été dit oralement. Alors, comme on sait, là-bas, ces louchotes-là, elles sont particulières parce que c'est Hachem qui les a données entièrement. Ça veut dire le support sur lequel Hachem a gravé les 10 paroles, c'est Hachem qui l'a fabriqué. Il a donné. Et ensuite, c'est le doigt d'Elohim qui a gravé les choses, qui étaient gravées de part en part, etc. Et ce qui était gravé, c'était les 10 paroles, mais d'une certaine manière, on pouvait aussi lire tout ce qui va être par la suite. la Torah chez Baalpé. Avec ces louchotes-là, il n'y avait pas un travail de hamal, le travail pour vraiment bosser sur la Torah. Mais on pouvait y accéder comme ça. Et les louchotes, c'était a priori des louchotes carrées, hein, disons à peu près 60 par 60, deux louchotes sur l'une. Tout ce qui concerne les relations verticales ou assimilées verticales, et sur l'autre, les relations horizontales. Et Moshe, Hachem était en train de lui donner, donc Moshe tenait, disons, 20 cm, Akadosh Baruch Hu tenait 20 cm, et entre les deux, il y avait 20 cm. Et à ce moment-là, Hachem dit à Moshe, Lech red, kishichet amcha. Hachem dit à Moshe, descends, ton peuple s'est fourvoyé. Alors Moshe dit à Hachem, mon peuple, c'est ton peuple. Le peuple d'Israël, c'est le tien. Il dit, non, non, c'est ton peuple. C'est le Erev-Rav. T'avais dit de ne pas les prendre. Et toi, tu as dit qu'ils ont l'air sincères, etc. Tu les as pris. Mais c'est eux qui ont été mécalqués. C'est eux qui, c'est ce Erev-Rav qui mérite en fait une réflexion pour soi, mais on va tout faire à la fois. C'est eux qui ont entraîné la dérive du Vaudor. Les Bnei Israël, ils disent à Aaron, fais-nous un Elohim qui va marcher devant nous et qui va nous guider. Parce que cet homme, Moshe, ils disent qu'il nous a sortis d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. On ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est la panique. On a absolument besoin de remplacer Moshe. Ne pas rester, ne serait-ce que quelques heures. Avec tout ce qu'ils ont vécu, ils paniquent tellement vite dès que Moshe n'est pas là. Alors les Chachamim m'expliquent qu'au Sinaï, ils ont compris quelque chose d'énorme. Ils ont compris que Hachem était réel, quoi, si on peut parler comme ça. La présence d'Hachem est écrasante et que ils ont, c'est ce qu'ils ont dit, si c'est pas toi qui nous parles, on meurt. Parle-nous toi, sinon on va mourir. Donc ils se sont mis dans une dépendance à l'égard de Moshe. Et quand Moshe n'est pas là, ils sont complètement perdus. Perdu parce que ils ne supportent pas d'être en présence directe d'Hachem, quoi. Faut qu'il y ait Moshe entre les deux. J'aurais pensé, moi je l'ai déjà dit, que les Bnei Israël, quand ils disent à Aaron que Haïch Moshe, l'homme Moshe, donc, qui a disparu, ils disent, l'homme Moshe qui nous a sortis d'Égypte. J'ai pensé que, voilà, c'est raté. On vient de, il n'y a pas si longtemps, on a tous lu la Haggadah, et dans la Haggadah, c'est dit expressément, que ce n'est pas Moshe qui nous a sortis d'Égypte. C'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte. Et quand ils disent c'est Moshe qui nous a sortis d'Égypte, ils ont quasiment déifié Moshe. Ils ont remplacé Hachem par Moshe. Et donc, quand ils veulent remplacer Moshe, alors ils disent, fais-nous un Elohim. Fais-nous un ou des dieux qui vont marcher devant nous, qui vont nous guider. Alors c'est vrai que Elohim, c'est l'ensemble de toutes les forces. Et que ça peut vouloir dire, fais-nous une force qui va nous guider. Mais une force qui va nous guider, le clan d'Israël n'est pas guidé par une force, il est guidé par une force qui est animée par Hachem. Donc, ultimement, c'est Hachem. Donc, on ne peut pas remplacer. Et du coup, même si on dit qu'effectivement, ce qu'il voulait, c'était un remplaçant de Moshe. Mais pour qu'il puisse remplacer Moshe, il va falloir l'investir d'un certain pouvoir. Il voudrait pouvoir lui dire à ce truc-là, c'est toi qui nous as sortis d'Égypte, quoi. Ils prennent la place de Moshe. Et donc, ils ne savent pas comment on fait ça, comment on lui donne du poids à ce machin-là. Finalement, un truc c'est Aaron qui l'a fait, donc. Même si c'est sorti de façon magique, etc. Mais comment on fait pour lui donner le poids en question? Ils ne savent pas. Alors, par contre, les gens justement du Erev Rav, ils disent, mais nous, on sait. Parce qu'on connaît ça, mais ce qu'ils proposent, c'est la façon idolâtre de donner du poids. Et c'est pour ça qu'ils se sont conduits comme des idolâtres avec ce veau d'or. Le veau d'or en tant que tel, il aurait pu être, vous savez bien que pourquoi il est sorti un veau? Pourquoi c'est pas une gazelle qui est sortie ou un aigle ou le lion? Parce que quand Yosef est sur le point de mourir, il a fait promettre aux Bnei Israël qu'ils allaient, qu'Hachem va vous libérer et vous prendrez mon cercueil, enfin ma dépouille, et vous m'enterrerez en terre d'Israël. Et Paro, qui savait cela, et qui ne voulait pas que le personnage de Yosef, qui avait sauvé l'Égypte, etc., il voulait pas que ça soit à l'extérieur, il a fait sceller le cercueil de Yosef au fond du Nil. Et les Chazal disent que au moment où les Bnei Israël allaient sortir d'Égypte, tout le monde s'est occupé en quelque sorte, à ramasser le fameux butin des Kélim en or et en argent, et que Moshe Rabbeinu s'est occupé d'aller chercher le cercueil de Yosef. Et la fameuse Sarah Bat Asher était une très très vieille dame. Elle lui a dit où il était. Et Moshe, il a pris une plaquette en or et il a écrit sur la plaquette Allez, Chor, monte, taureau. Pourquoi taureau? Parce que l'emblème de la tribu de Yosef, c'était le taureau. Vous savez, ils avaient des drapeaux sur lesquels il y avait des emblèmes. Il y avait le loup sur Binyamin, le lion chez Yehuda, c'est la gazelle chez Naphtali, etc. Et il y avait le taureau qui était l'emblème de Yosef. Et donc, il appelle Yosef en tant qu'il l'appelle Chor. Et il a jeté la plaquette dans le Nil et le cercueil de Yosef est monté. Et puis, il ne s'est pas occupé de la plaquette en question. Elle a été ramassée par quelqu'un. Et ce quelqu'un, quand Aaron a demandé l'or, il a jeté la plaquette dans le four où on cuisait pour défendre l'or. Et c'est ça qui a fait que le taureau est monté. C'est le taureau, le veau en question. Il est arrivé. Donc ça veut dire que ce taureau-là, d'une certaine manière, il était l'emblème de Yosef. Et c'est, il faut comprendre que c'était le seul qui pouvait représenter un substitut de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il fallait quelqu'un qui ait joué un rôle dans la sortie d'Égypte, un rôle fondamental. Celui qui a joué le rôle fondamental pour la direction d'Hachem, de la sortie, c'est Moshe. Mais pour sortir d'Égypte, il avait fallu d'abord y entrer. Et celui qui a fait entrer les Bnei Israël en Égypte, c'était Yosef, bien sûr. Et donc Yosef était le seul qui a joué un rôle fondamental dans la sortie d'Égypte. Parce que l'entrée en Égypte, c'était le commencement, c'était la situation sine qua non pour qu'on ait une sortie d'Égypte. Et donc ce qui est sorti, c'était l'emblème de Yosef en réalité. Donc on aurait pu manager ça. Disons, c'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte, mais on a besoin de quelqu'un qui, à un moment donné, a été choisi par Hachem pour avoir un rôle important à la sortie d'Égypte. Alors, l'erreur, c'est que finalement, ils ont d'une certaine manière déifié Moshe. Moshe, durant toute sa vie, il a fait très attention qu'on ne le déifie pas. Après sa mort, c'est Hachem qui s'en est occupé, on ne sait pas où il est enterré. Il y a eu un petit moment où Moshe Rabbeinu n'était pas là pour se défendre, où Hachem ne l'a pas défendu. C'était ce moment-là. Moshe était sur le Sinaï, en train d'apprendre. Et bon, il y a eu un espèce. Et voilà. Il n'était pas là, ils l'ont déifié. Ce moment-là. Et Rachid dit, il voulait des idoles, il voulait des intermédiaires visibles en fait. Ils savent bien qu'il y a Hachem, mais justement, Hachem il est trop fort, trop transcendant si on veut. Le veau d'or, ce n'était pas vraiment une rébellion contre Hachem. C'était une façon de faire descendre la présence divine dans le monde. Avant le Sinaï, Hachem est d'une certaine manière assez loin, il n'y a pas de veau d'or. Mais après le Sinaï, Hachem est tellement proche, on a besoin, les Bnei Israël ont l'impression qu'ils ont besoin de quelque chose, d'un écran, pour pouvoir supporter la proximité avec Hachem. C'est un danger qui existe dans le monde de la Torah, où il faut peut-être mettre de la kdusha dans le monde sans tomber dans l'idolâtrie. C'est très subtil. Le Sinaï, il a rendu l'idolâtrie plus dangereuse qu'avant. Alors, je vous ai dit une des explications pourquoi c'était d'Afrique un veau. Il y en a qui disent que c'est beaucoup plus simple. C'est que le taureau, ça représente la force, la vitalité, la puissance vitale. Donc, ils veulent une incarnation dans la nature de la puissance divine. Par la suite, Hachem va nous, d'après ceux qui disent que c'est par la suite, Hachem nous a donné le Mishkan à la suite du Vaudor, avec les Kruvim sur le couvercle du Aaron HaKodesh. La Torah a l'air de permettre quelque chose de matériel, quoi. Mais eux, ils ont voulu le faire sans avoir reçu un ordre d'Hachem. Le Mishkan, les Kruvim, l'Aaron, tout ça, c'est permis parce qu'Hachem l'a ordonné. Ce n'est pas qu'Hachem l'a ordonné, ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas décider, nous, on va le faire. C'est ça la faute. C'est vouloir la présence d'Hachem, mais vouloir, le cas échéant, la fabriquer nous-mêmes. Hazal disent que très souvent, peut-être toujours, après une grande lumière, il y a toujours une grande obscurité. Après la grande lumière du dévoilement, Sinaï, il y a le veau d'or. Pourquoi? Parce que la grande lumière, elle a été atteinte de façon un peu artificielle. Je voulais dire, c'est pas fini, je crois. On était à moins 49. Les Bnei Israël, quand Hachem leur parle, il faut ajouter la chose suivante. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je vais te parler, et je vais te parler de telle sorte que les Bnei Israël entendent que je te parle. Et donc, pour que ce soit possible, Hachem a dû élever les Bnei Israël quasiment au même niveau que Moshe Rabbeinu pour entendre la conversation. Entendre qu'Hachem parle à Moshe. Et Hachem a dit, pourquoi je vais faire ça? Parce que comme ça, ça va fonder l'autorité de Moshe. Moshe va dire, Hachem me parle. Alors si on dit, faut le croire, pourquoi on croirait, peut-être qu'on ne croit pas. Non, mais on a vu qu'il lui parle, donc c'est vrai qu'il lui parle. Au moins, c'est au moins possible, c'est une vérité, Hachem lui parle, a dit. Mais pour ça, il a fallu monter les Bnei Israël très très haut, complètement artificiellement. Ça ne leur correspondait pas vraiment. Et donc, ils ont dû redescendre et reconstruire jusqu'au niveau qui leur convient par eux-mêmes. C'est un travail à faire. Alors, on était au 49e degré positif au moment où on pouvait entendre Hachem parler à Moshe. Donc, il fallait passer de moins 49 à plus 49. Mais il n'y avait que 49 jours. En 49 jours, on ne passe pas de moins 49 à plus 49. Ça veut dire, ouais, ça veut dire qu'il devait faire chaque jour un double travail. Un travail pour remonter, sortir du négatif, et un problème pour construire dans le positif. Donc, un travail pour s'arracher à l'idolâtrie, pour remonter, moins 45, moins 30, moins 20, etc. S'arracher à l'idolâtrie, qui est un travail qui n'est jamais fini. La preuve, c'est que nous encore, tous les matins, on fait une bracha sur le fait qui demande à Hachem, d'une certaine manière, de nous aider à continuer de ne pas être idolâtre. Et puis en même temps, il fallait construire la relation avec Hachem. Pourquoi cela? Parce que il fallait sortir de la dépendance idolâtre sous forme d'esclavage, par exemple, une forme faible de d'idolâtrie. Et en même temps, il fallait construire quelque chose, mais la construction avec Hachem, en quelque sorte, c'est une construction dans laquelle Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons devenir véritablement esclaves d'Hachem. Pourquoi il faut être esclave d'Hachem? Parce que le seul moyen d'empêcher quelqu'un de devenir esclave, c'est de l'être déjà. Ça veut dire, si quelqu'un est esclave de A et que B lui propose de devenir son esclave, je peux lui dire, je ne peux pas, je suis déjà esclave de A. Et donc nous, face à l'idolâtrie, on va répondre, nous sommes déjà esclaves d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'on a gagné, esclave pour esclave? On a gagné énormément parce que quand on est esclave d'un homme, ou d'une institution, ou de quoi que ce soit, l'homme en question, l'institution, ils ont des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Donc je suis esclave de quelqu'un qui a d'autres intérêts que les miens, et donc il va m'utiliser pour ses intérêts. Hachem n'ayant besoin de rien du tout, on ne peut rien lui donner. Donc il n'y a pas de recherche de son intérêt. Donc on n'a que le côté positif. C'est-à-dire qu'en fait, la proximité, la prise en charge, d'une certaine manière, quand on est esclave, quelqu'un peut choisir d'être esclave. Hachem ne le veut pas, mais on peut choisir. Ça veut dire, quand tu choisis d'être esclave, tu n'as pas de problème de budget. Tu es nourri, logé, blanchi. Toi et éventuellement toute ta famille. Il n'y a que toi qui travailles. Et quand on est esclave d'après les règles de la Torah, on ne peut pas te faire faire des travaux difficiles, des travaux déshonorants, etc. Donc tu vas bosser, tu vas travailler, c'est tout. Tu vas travailler c'est pas pour toi directement, mais en vérité, quand tu travailles pour Hachem, tu travailles pour toi, puisque comme lui, il a besoin de rien du tout, en vérité, c'est une façon de travailler pour toi. Et donc, voilà, on t'enlève des soucis, d'une certaine manière. Alors, c'est vrai qu'il y a il y a un peu de problèmes, un peu de contrepartie, si on peut parler comme ça. Mais dans l'idée générale, bon, quelqu'un qui n'a pas envie d'affronter la vie, bon, il peut décider, bon, je vais devenir esclave. La Torah ne veut pas ça, mais on peut entendre ça. Si. Dans l'hypothèse où l'esclavage n'est pas une torture, n'est pas un droit de vie ou de mort, etc., comme le sont les esclavages, quand le maître, c'est un homme. Et donc, il va falloir construire cette relation, c'est-à-dire s'effacer devant Hachem, mais c'est pas être complètement un mollusque. Parce que on a l'obligation de se tenir devant Hachem. Et on a un limoud dans ce sujet-là, qui est que la Gemara, elle dit qu'on doit avoir un huitième de huitième d'orgueil. Un huitième de huitième de colonne vertébrale, si vous voulez. Et ce n'est pas parce que la Gemara, elle ne connaît pas la multiplication, qu'elle a dit huitième de huitième, mais le Gaon de Vilna explique, vous connaissez, que le huitième de huitième, ça veut dire, c'est le huitième verset de la huitième paracha. Et le huitième verset de la huitième paracha, c'est le passouk où Yaakov dit à Hachem, « Kotonti mikol ha-chassadim. » Je suis écrasé par toutes tes bontés. C'est-à-dire, Jacob, il nous dit, c'est un peu trop. C'est un peu trop, il faut quand même que je puisse me tenir debout devant toi. Et ça m'écrase, toutes tes bontés, toutes tes bontés. Là, on apprend qu'il faut un petit peu d'orgueil pour pouvoir se tenir debout, comme Hachem demande que nous nous tenions debout. Donc dans le Sinaï, il y avait une dimension cadeau, si vous voulez, et avec le veau d'or, il y a un travail, ça correspond à un certain travail, c'est une erreur, mais si on l'avait bien vécu. C'est le début du travail, en fait, humain. Mais s'il n'y avait pas la faute, alors la Torah serait restée une Torah du ciel, dans le ciel. L'histoire humaine, humaine de la Torah, avec le processus de Tshuva, avec Yom Kippour, avec les louchot qui ont été brisées, les deuxièmes qui ont été données. Tout ça, toute cette Torah-là, elle est donc liée. C'est dans les suites du veau d'or. Donc le veau d'or était une très grave erreur. Mais quelque part, il y a quelque chose il y a un bénéfice de cette, tout ce qu'Hachem fait, bon, tout ce qu'Hachem laisse faire, bon, ça veut dire, on était obligé d'en passer par là, probablement. Vivre au niveau de cette révélation qu'il y a eu au Sinaï, c'est quasiment impossible et ça donne le veau d'or. C'est-à-dire la véritable relation avec Hachem, relation de Tshuva, de Torah orale, etc. On peut se demander à ce moment-là, ça fait aussi partie de Matan Torah, pourquoi Moshe Rabbeinu va briser les premières tables? Hachem l'a laissé les prendre. Il est descendu de la montagne jusqu'à ce qu'il puisse voir ce qui se passe. Il a toujours les louchot à ce moment-là. Il va les casser, il va casser des louchot qu'il a reçus d'Hachem, qui sont là. Un produit directement divin. Gravé par le doigt d'Hachem sur un support qui a été donné par Hachem. La pierre en question, le support, c'est surnaturel. Les lettres traversent la pierre, on peut lire des deux côtés. C'est appelé Maaseh Elokim, une œuvre d'Elokim. Quasiment rien d'humain là-bas. Moshe ne participe pas du tout à la fabrication de ces premières louchot. C'est la Torah, c'est une Torah qui est au ciel. Et donc, elle a le défaut, si on peut parler comme ça, que tout vient d'en haut. C'est toujours Ita Aruta de Leila. C'est comme Pessah. Les hommes n'ont rien fait, c'est Hachem qui a tout fait à Pessah. On n'avait pas de mérite, on n'est pas sorti par nos mérites. L'homme n'est qu'en position de récepteur. Donc, il prend l'initiative, Moshe, de les briser. Et Hachem lui dit, très bien, c'est bien que tu les aies. Yashar Korah, tu Shibamta. T'as bien fait de les casser. Je n'ai jamais donné l'ordre de le faire, mais c'est. Or, les louchot, d'une certaine manière, si le Sinaï c'était un mariage, les louchot, c'est une espèce de contrat de mariage, quoi. Ktouba. Les Bnei Israël ont trait, c'est comme une kala qui a été infidèle sous la coupa. C'est énorme. Et Moshe va détruire le contrat avant qu'il soit juridiquement actif, c'est-à-dire il n'a pas encore été. Quand on donne après avoir lu la ktouba sous la coupa, le khatan, il donne la ktouba à sa femme et lui dit Arezé ktoubater. Ceci est Aktuba. Donc c'était l'Aktuba, le clan Israël n'a pas encore reçu. Donc c'est pas un divorce, c'est une rupture avant le mariage. C'est comme si Moshe Rabbeinu sent que les premières louchot, elles ne peuvent pas exister dans un monde, enfin, elles ne peuvent exister que dans un monde sans faute. Avec le veau d'or, ce monde n'existe plus. On n'est plus dans un monde sans faute. D'une certaine manière, les louchot en question, elles ne sont pas compatibles avec la condition humaine à ce moment-là. À ce moment-là, comme vous savez, Hachem dit à Moshe, c'est terminé, j'arrête avec ce peuple et je vais construire un nouveau peuple avec toi. Moshe dit, je suis pas candidat. Ou bien tu pardonnes, ou tu peux m'effacer de ton livre. OK. Alors ça a duré longtemps. Ça a duré depuis le mois de Sivan, Tammuz, Av, Elul, jusqu'au 10 Tishri. Le 10 Tishri, finalement, après que Moshe soit monté, redescendu, monté, le 10 Tishri, Hachem a pardonné. Ce 10 Tishri, il est devenu Yom Kippour. Mais avant cela, les Tishri, on les a reçus, les louchot. Mais Hachem avait dit à Moshe, là, quand il avait décidé qu'il allait pardonner, il lui a dit, je vais redonner les tables, mais c'est toi qui fournis le support. Tu vas tailler deux pierres et tu vas les donner. Moi, j'écrirai ce que j'avais écrit dans les premières. Mais c'est toi qui fabriques les pierres en question. Dans les premières, tout est fait par Hachem. Dieu fabrique la pierre, il grave la pierre, il écrit. Dans les secondes, Moshe travaille la pierre, Hachem écrit. Ça veut dire que les louchot deviennent un objet dans la fabrication duquel l'homme est partenaire. Partenaire d'Hachem. Comme vous savez, Moshe va vouloir aussi, il avait déjà voulu déjà que les Bnei Israël soient partenaires quand il a ajouté un jour de préparation supplémentaire pour que les Bnei Israël soient du côté du don et pas seulement du côté de la réception. Alors, il y a un cadeau. Parce qu'avec les deuxièmes tables, les Bnei Israël reçoivent la Torah orale. Ce qu'on pouvait lire sur les premières, on ne peut plus le faire dans les deuxièmes. Et c'est énorme. Parce que la Torah orale, ça veut dire, c'est une Torah qui est interprétée, qui est débattue, qui est pile-poulée, avec créativité, chidushim, responsabilité humaine. Tout ça, c'est humain. Mais pourquoi c'est seulement maintenant, avec les deuxièmes louchot, qu'il y a Torah orale? Pourquoi on n'a pas eu la Torah orale avant? Parce que la Torah orale, elle n'existe que dans un monde imparfait, complexe, où l'homme doit chercher la vérité. Avant la faute, la vérité, elle était là, toute faite. Après, il faut la créer quasiment. Mais d'une certaine manière, après la faute, le pardon, ça veut bien qu'on dit que les balais de tchouva se tiennent à un endroit, à une hauteur à laquelle les tzadikim gomorim ne se tiennent pas. Ne peuvent pas s'y tenir. Donc après, ce qui vient après la chute, si on a fait tchouva, évidemment, ça peut atteindre une profondeur, une hauteur qui n'était pas accessible avant. Parce qu'avant, l'homme était d'une certaine manière essentiellement passif. La Torah, elle est moins parfaite extérieurement, mais elle est intériorisée, intériorisable. Elle n'est pas seulement révélée, elle est étudiée, elle est discutée, elle est vécue, elle est construite. C'est-à-dire, c'est la notion de construction d'un Beit HaMidrash. Et d'une certaine manière, ça veut dire que les deuxièmes tables, elles sont peut-être même supérieures aux premières, dans la mesure où les deuxièmes tables, c'est la Torah divine plus l'effort des hommes. C'est une relation reconstruite après la rupture, c'est une relation d'amour après la faute. Nous, bien entendu, nous vivons sur la Torah correspondant au deuxième table. Torah qui est faite pour les humains qui fautent. Alors, ce que j'aurais voulu essayer de dire, c'est que à la question que j'avais posée, mais pourquoi on ne dit pas Zman Kabbalat Torah Tenu? Alors peut-être que il faut l'entendre comme ça. Le don de la Torah, il a commencé à Shavuot. Hachem nous a donné la Torah. Et il compte, c'est un don permanent. Mais nous ne l'avons reçu qu'à Kippour. Jusque-là, elle était en l'air. La Torah, elle était. Voilà, on a reçu un avis en voie de livraison, mais ce n'était pas livré encore. Ça n'a été livré qu'à Yom Kippour. Et à ce moment-là, on peut comprendre que Shavuot, c'est vraiment Zman Matan Torah Tenu. Ce n'est que Matan Torah Tenu, puisque nous, on vit avec les deuxièmes Lukot. Et on a reçu ça seulement le matin de Torah, concrètement, la trace de ce que Hachem nous a donné la Torah, ce sont ces fameuses luchot. Ces luchot-là, on les a reçues à Kippour. Donc, Shavuot, c'est Zman, matin de Torah Tenu, et Kippour, Zman, Kabbalat Torah Tenu. Comme ça, on peut, en quelque sorte, expliquer pourquoi on dit matin de Torah Tenu. Voilà, on va s'arrêter là.
Ah, Rav, excusez-moi. S'il vous plaît.